locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h sur Campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au sommaire ce soir, pourquoi un billet de 10 euros vaut-il 10 euros? Eh bien c'est parce que pour votre voisin, pour la boulangerie du coin, pour le CAC 40, 10 euros c'est 10 euros. Mais imaginez-vous qu'un jour tout le monde dise que l'objet 10 euros vaut en fait 5 euros. Eh bien pour vous aussi, le billet sur lequel sera indiqué 10 euros vaudra alors 5 euros. Si on a l'impression d'être dans une sorte de vieux sketch de Roman Frécinet, eh bien, c'est quand même de ça qu'on va parler aujourd'hui. La valeur de l'argent réside simplement dans la confiance qu'on lui accorde. Et pour l'association que nous allons recevoir ce soir, la monnaie dans laquelle ils ont le plus confiance, eh bien, c'est le Bitcoin. Comment une ligne de code sur Internet pourrait avoir plus de valeur qu'un billet? Et pourquoi accordons-nous autant de confiance à une carte avec laquelle nous payons tout? Eh bien, on décrypte les usages du Bitcoin avec Emmanuel Arrault, président de l'association Abujou Bitcoin, ainsi que Jean-Charles Galli, deux membres de l'association Anjou Bitcoin. Nous aurons également la joie, le bonheur, que dis-je, l'immense plaisir de retrouver Héloïse pour le premier agenda culturel de la saison dans le pédalo. Vous savez tout, alors ajustez bien votre gilet de sauvetage. C'est parti, le pédalo lève les voiles. Salut Héloïse.
Salut Hugo.
Tu vas bien?
Oui, très bien. Ravi de revenir pour cette saison qui promet d'être riche en événements culturels.
Alors, de quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir?
Encore un agenda très, très musical. Ouais. On aura trois festivals ce week-end.
Écoute, c'est l'été qui continue, quoi.
Voilà, c'est ça. Bon, tout d'abord, ce sera le festival Bassine Vallée, à Cantenay-Épinard. C'est la troisième édition cette année de ce festival familial de musique actuelle. Il propose une programmation aux tonalités locales et variées, avec des concerts de différents styles musicaux. On aura notamment en tête d'affiche La Rouda. Je pense que tout le monde a entendu des musiques sur
connaît,
les ondes.
On les aime bien, ils passent régulièrement sur les ondes de campus, effectivement.
Et avant les vacances, nous les avions reçus sur les ondes de Radio Campus d'ailleurs. David et Joe, les coprésidents du festival, ils nous avaient parlé de la programmation, mais aussi de l'aspect écomobilité, un aspect important pour eux. Plusieurs dispositifs sont mis en place, dont un que je trouve très sympa, la navette fluviale. Il vous est possible d'aller et revenir du festival en partant de la cale de la Savate avec un artiste qui anime la traversée.
Deux départs programmés à la cale de la Savate, un à 17h30 et l'autre à 19h. Le tarif aller-retour, c'est 35 euros avec une réduction sur l'entrée du festival, donc ça vaut le coup. Et on vous invite à écouter ou réécouter leur interview sur les ondes de campus. Voilà, c'est sur notre site internet www.radiocampusangers.com. Héloïse, les autres festivals à voir ce week-end?
Vendredi et samedi, c'est aussi le Chroma Festival près de Segré en Anjou Bleu, à environ 30 minutes d'Angers. C'est un festival à la programmation plutôt éclectique, avec du rap, de la house et de la techno. Parmi les artistes attendus, on retrouve Jacido Rex et Esteban Desigual, et il reste encore des places. Et enfin, Hugo vous en parlait hier dans le pédalo avec deux membres de l'organisation du festival, le Clap de Rabelais à Rabelais-sur-Layon. Ce sera toujours ce week-end du 6 au 8 septembre avec un programme original et très riche. Des marchés de producteurs locaux, DJ set, exposition et même navigation musicale, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est un petit nom donné à une performance qui va avoir lieu sur le thème de la croisière s'amuse. Attendez, mais...
Ouh là là, ça va être pas mal.
qui dit début septembre dit aussi rentrée pour les étudiants, évidemment.
Et malheureusement pour certains, peut-être.
on leur souhaite bon courage.
D'ailleurs, la saison culture est ouverte à l'Université d'Angers. Leur agenda culturel s'est ouvert pour l'automne 2024. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Les événements sont ouverts et gratuits à tous sur inscription. Au programme des expositions, des concerts, des rencontres et des conférences. Bref, de quoi bien s'occuper jusqu'en décembre. Et on y reviendra en détail au cours de la saison, évidemment.
Évidemment, et puis on va très très bientôt inviter le service culture de l'Université d'Angers pour détailler
un peu tout ça.
C'est
parfait, petite introduction.
Exactement. Et bien, merci beaucoup Héloïse, et puis j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine pour un autre agenda de qualité.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Man, could you put out there cryptocurrency and trading computers? We got a lot of cash.
Man,
flow.
Shut up, man.
Tony, you
hired.
Tony, you hired. Up with that language. That's your mother's language, man.
We got time for it.
Okay. Go. My way. My way works.
Dem a chop potty bowl and dem a chop smart. Cryptocurrency, you know, see seh me start start. Dem a chop potty bowl and dem a chop smart. Dem a chop smart. Dem a chop smart. Bitcoin. Flipping money, so we do the line. Washing money, dirty money, man, we do the grime. Connection strong like a the Wi-Fi. Mexican, no, live the poppy lifestyle. Colombian food with couple white ties. I'm still also like me a white knight. Me girl like Rosa, me a buy rice. Foot up in that cliff, live. Sport funny at bridge, live. Walk at the trap, this, nice. Four corny at. I was some boy. Some bands are scamper. Vanilla card, we response for Tribus, Atlanta. They match up, but you know, see, they match up smart.
All right, let's go, let's go. I don't know what's wrong with y'all. Y'all need to get up out of here. Hey, you over there, let's go.
Smart. They match up smart.
Smart.
Chop. We chop food and a box food, that's true. We chop ball in a bad mood. Now stop my paper like in a classroom. And them now here, so this thing I gone soon. Press sport, now they be my palm mood. A little soft tune, now you're rhythm and blues. Big spliff chilling on cruise. Feel like a moon. Stars now make your on the roof. Boat up in the cliff, dive. Sport on the yacht bridge, dive. Walk now the trap this, nice. Poor Konya.
I was some boy. Stocks and bonds are scamper. Vanilla God, we response for Chima, Atlanta.
They match up, but you know, see, they match up smart. Cryptocurrency, you know, see, Mr. Star. They match up, but you will have them match up smart. They match up smart.
Smart.
Tap smart.
Voilà, c'était TJ sur les ondes du Centre FM avec un son, écoutez, ma foi, fort à propos, puisque le morceau s'appelle Bitcoin. Et alors justement, le Bitcoin, on en parle sur campus du coquillage au Bitcoin. Voilà le nom de la conférence organisée mercredi 11 septembre prochain par à l'Université catholique de l'Ouest par une toute jeune association Anjou Bitcoin. Et avec nous pour nous présenter tout ça, Emmanuel Arrault, bonsoir.
Bonsoir Hugo.
Vous êtes président de l'association et conférencier et vous êtes accompagné notamment ce soir de Jean-Charles Galli qui, et on excuse Nicolas Houdon qui devait être avec nous mais finalement qui n'a pas pu être là. Jean-Charles Galli, bonsoir, vous êtes aussi membre de l'association Anjou Bitcoin.
Bonsoir Hugo.
J'ai commencé cette émission par expliquer que la valeur d'une monnaie résidait dans la confiance qu'on lui accordait. Est-ce que vous me rejoignez là-dessus ?
Ah bah, totalement, oui. Oui, sans confiance, c'est difficile de maintenir la valeur, en tout cas, d'une monnaie. Si vous avez une population qui perd confiance dans cette monnaie va s'effondrer naturellement. Et donc, oui, la monnaie est très liée à la confiance. Oui.
C'est ce qui est arrivé en Allemagne, hein, au moment où il y a des photos très célèbres, où on voit des brouettes de billets transportées par les habitants, simplement pour aller acheter un steak chez le boucher.
Il y a un siècle.
Ouais, c'est ça, il y a tout juste un siècle. Peut-être qu'on peut commencer cette interview par expliquer à nos auditeurs, auditrices, ce qu'est un bitcoin, puisqu'on va parler de bitcoin, tout le monde a déjà entendu parler, mais c'est quoi en fait un bitcoin ?
Alors, il y a deux choses dans Bitcoin. Il y a Bitcoin avec un grand B et Bitcoin avec un petit B. Bitcoin avec un grand B, c'est l'infrastructure, c'est la blockchain sur laquelle, du coup, les petits Bitcoins vont être en capacité, entre guillemets, de circuler. Hein. On va essayer d'imager et de vulgariser au maximum. Et Bitcoin avec un petit B, c'est vraiment l'unité de compte. Qui va permettre effectivement de payer. Alors à savoir que parce qu'on dit souvent, alors pour ceux qui nous écouteraient, un bitcoin, il y en a 21 millions, il y en aura 21 millions à un moment donné, mais ces 21 millions, on peut les diviser au 100 millionième, donc on appelle des satoshi. Donc le satoshi est aussi une unité de compte, mais c'est juste pour revenir sur le fait que beaucoup de gens se disent tiens, on peut pas acheter un bitcoin, c'est beaucoup trop élevé, son prix est trop élevé. En fait non, c'est très très divisible.
Donc, voilà. Parce qu'aujourd'hui, un bitcoin, hein, c'est extrêmement cher, 51 868,40 €, hein, à l'heure où j'ai regardé le cours du bitcoin tout à l'heure, puisqu'il y a un cours du bitcoin, comme toutes les monnaies, le bitcoin aussi, la valeur du bitcoin est régie par la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi la différence entre l'euro et un bitcoin ? Entre un euro et un bitcoin, à part la valeur ?
Alors, à part la valeur, c'est surtout son fonctionnement. Alors, c'est quelque chose, pour revenir sur, en tout cas sur l'histoire, par exemple, de la conférence, du coquillage de Bitcoin, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur l'évolution des monnaies. En tout cas, comment elles sont nées et comment elles ont évolué. Et si on prend l'euro aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement centralisé. Les banques commerciales vont pouvoir créer de la monnaie, la banque centrale va guider un petit peu cette création monétaire, mais c'est quelque chose qui est entre les mains des êtres humains, en tout cas de quelques personnes. À la différence de Bitcoin, qui est un code informatique sur lequel les êtres humains ont entre guillemets la main, mais les fondements, en tout cas les fondations de Bitcoin, elles ne bougent pas depuis 15 ans. Un petit peu à l'image, c'est une des raisons pour lesquelles on l'appelle l'or numérique 2.0, parce que l'or, par exemple, l'être humain ne peut pas le manipuler. Un kilogramme d'or, c'est un kilogramme d'or.
Cependant, l'or est coté en bourse, donc la valeur de l'or évolue elle aussi.
Également, mais la masse de l'or sur la planète, elle est fixe. Alors, elle n'est pas connue, parce que du coup, on en extrait encore régulièrement, mais c'est quelque chose sur lequel l'être humain n'a pas la main. Il va pas pouvoir synthétiser aujourd'hui de l'or. Donc c'est une des raisons d'ailleurs qui fait que l'or a été considéré comme une espèce de monnaie reconnue mondialement pendant des siècles et des siècles, parce qu'en fait on ne peut pas le manipuler.
Donc vous dites qu'un bitcoin aujourd'hui vaut si cher et est si demandé, alors que c'est simplement une ligne de code mais qu'on ne peut pas modifier, c'est une ligne de code unique, infinie, et on reviendra tout à l'heure, hein, sur la définition de ce que c'est la blockchain. Alors, et encore une fois, c'est pas infini, mais on peut le diviser en mille et une. Enfin, 21 millions de bitcoins qu'on peut diviser en...
En 100 millions.
En 100 millions. Voilà, donc c'est une ligne de code finie. Donc on reviendra tout à l'heure sur ce que c'est la blockchain. Mais pour autant, c'est juste une ligne de code. Donc là, vous dites que la valeur de l'or équivaudrait à la valeur... Enfin, qu'on peut avoir autant confiance dans l'or qu'on peut toucher qu'en une ligne de code qui est un peu impalpable.
Alors justement, ouais. Pour compléter ce que dit Emmanuel, ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est qu'il introduit la finitude à l'ère numérique. Effectivement, on peut reproduire une ligne de code à l'infini, on peut faire des copier-coller à l'infini, dans la limite de ce que peut contenir un disque dur ou bien des serveurs. Ce n'est pas le cas avec Bitcoin. On peut transférer un Bitcoin, c'est-à-dire que je vais vous envoyer, Hugo, un Bitcoin, je ne serai plus le possesseur de ce Bitcoin, vous le serez désormais. Vous aurez accès à un Bitcoin que je n'aurai plus. On peut faire ça...
Comme un euro, quoi. Ça, c'est pareil.
Comme un euro, effectivement, ouais. Mais là, dans l'espace numérique. C'est ça, en fait, ce qui change la donne.
Mais je ne comprends pas, parce que dans l'espace numérique, c'est pareil. Si jamais je vous fais un Lydia avec mon euro...
Pas tout à fait. On va reprendre l'exemple d'un mail, par exemple. Si je vous envoie un mail, Hugo, j'ai ma copie du mail, vous avez la copie du mail que vous pouvez renvoyer à Manuel, à Nicolas ou à quiconque dans cette pièce ou parmi les auditeurs. Ce n'est pas un problème. Dans le cas de Bitcoin, vous ne pouvez pas en fait le répliquer à l'infini. C'est vraiment cette réplique numérique en quelque sorte d'une ressource finie comme l'or. Et vous parliez de Lydia, effectivement Lydia est une entreprise qui va être un intermédiaire de paiement, là où Bitcoin est un réseau décentralisé. Il n'y a pas d'entreprise derrière, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de PDG. On ne sait pas d'ailleurs ce qui est devenu le créateur.
Hein, du Bitcoin, c'est vraiment un mystère absolu. Exactement. Cette histoire. On ne sait pas trop qui l'a créé, enfin on sait un peu, mais on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Enfin, c'est...
On a quelques indices, ouais. Ça participe effectivement au mystère et à l'attrait de Bitcoin. Pour autant, voilà, c'est une révolution en fait, à l'ère numérique. Puisque ça introduit la finitude dans ce monde numérique.
Le Bitcoin a souvent été décrié parce qu'utilisé comme monnaie de transaction, notamment sur le Darknet. Donc qu'est-ce que je peux acheter en fait? Parce que depuis tout à l'heure on parle de cette monnaie qui vaut beaucoup d'argent, qui représente beaucoup. Mais en fait je peux payer quoi avec du Bitcoin? Par exemple je vais à la boulangerie, je peux acheter une baguette. Si jamais je vais chez le notaire, je peux acheter ma maison, je peux acheter une voiture, je peux acheter tout un tas de produits illicites sur le Darknet comme de la drogue et des armes, mais ça s'arrête là?
Non, si les deux parties se mettent d'accord pour faire une transaction en Bitcoin, c'est possible. Aujourd'hui, à Angers, aucun commerçant n'accepte Bitcoin comme moyen de paiement. Pour autant,
Est-ce qu'à Angers, le Bitcoin a de la valeur?
La même valeur, effectivement, que partout dans le monde, au cours actuel.
Alors que personne n'utilise à Angers, aucun commerçant n'utilise?
Non, la différence quand même fondamentale entre par exemple ce qu'on peut faire en euros et ce qu'on peut faire en bitcoin, c'est qu'aujourd'hui un commerçant n'a pas vraiment le choix. Il est obligé d'utiliser l'euro. En fait, c'est imposé. On ne lui donne pas le choix de le faire ou non. La différence avec bitcoin, c'est que ça s'adopte. C'est-à-dire que si un commerçant décide d'accepter bitcoin, eh bien alors dans ces cas-là, c'est très très facile pour lui d'accepter bitcoin, voire même à ce que ce soit converti en euros. Il y a des outils qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas très très vieux d'ailleurs, ce qui peut expliquer également la raison pour laquelle il y a très peu de commerçants encore qui acceptent Bitcoin. Au-delà du fait qu'il subit un nombre incalculable de critiques de droite et de gauche, en fait, si un commerçant aujourd'hui décide, se dit tiens, voilà, ok, moi j'accepte l'euro, mais je veux accepter aussi une autre entre guillemets monnaie, je le mets entre guillemets, eh bien il peut le faire, tout simplement. Il y a des outils qui existent comme Swiss Bitcoin Pay par exemple, qui vous permettent très facilement d'accepter des bitcoins aujourd'hui.
Et ça fonctionne comme un TPE?
Exactement. C'est Swiss Bitcoin Pay, c'est typiquement un TPE où le commerçant va rentrer la somme et ensuite le commerçant décide soit de conserver les bitcoins qu'il a reçus, soit de les convertir en euros.
Depuis tout à l'heure, on est en train de questionner un peu ce que c'est le Bitcoin, pourquoi est-ce qu'on devrait faire confiance à cette monnaie que vous mettez donc entre guillemets. C'est quoi l'intérêt d'utiliser Bitcoin plutôt que d'utiliser l'euro?
Alors, pour tout vous dire, en fait, il y a quelques années...
L'euro, le dollar, enfin j'en passe.
Oui, bien sûr, dollar, yen, yuan. En fait, si vous voulez, très très peu de gens... moi, je pense que c'est ça, le gros problème aujourd'hui, en tout cas, c'est que 99% des gens ignorent totalement comment fonctionne la monnaie. Moi-même, j'ai fait des études, j'ai été professeur, je travaille dans l'informatique, j'ai investi, etc. Et je n'avais aucune connaissance du fonctionnement de notre monnaie. Lorsque je découvre Bitcoin, je me penche, en fait, parce que ça propose un modèle monétaire, je me penche du coup sur, mais finalement, comment fonctionne ma monnaie? Qui l'a créé? Tout à l'heure, vous parliez de comparer le Bitcoin et l'or, Hugo. Eh bien, en fait, l'or est fini, ça c'est sûr et certain. Bitcoin, c'est un code informatique, et en fait, il faudrait un consensus énorme entre, alors plus de 15 000 nœuds connus, mais il faudrait un consensus énorme pour modifier les fondements des fameux 21 millions, parce que c'est qu'une ligne de code, a priori, on pourrait la modifier. Mais lorsque vous vous intéressez à la monnaie actuelle, l'euro, il faut savoir que, par exemple, l'euro est créé à partir du crédit. C'est-à-dire, vous allez voir votre banque, vous faites un crédit, l'euro est créé à partir de ça. Donc, c'est pas quelque chose qui existe au départ. Il n'y a plus du tout de corde physique de rappel sur cette monnaie, telle qu'on avait avec l'or jusqu'en 1971. Maintenant, ça, c'est terminé. Il n'y a plus de corde de rappel. Si vous regardez le bilan des banques centrales, c'est-à-dire un petit peu la guideline du coup de la création monétaire aujourd'hui, n'allez pas voir ces courbes parce qu'elles vont vous faire peur, en fait. Tout simplement parce que ces courbes s'envolent en exponentiel. Et donc, c'est ça pourquoi est-ce qu'on irait, entre guillemets, vers Bitcoin? On n'encourage pas les gens à dire arrêtez l'euro et allez voir le Bitcoin. Nous, à l'association, ce qu'on encourage, c'est intéressez-vous à ça, essayez de comprendre comment fonctionne votre monnaie, étudiez son fonctionnement.
Et on ne peut pas le faire sans parce que là, pourquoi ne pas être association pour la prévention de, d'un mouvement monétaire indépendant, comme peut l'être par exemple les monnaies locales, ou comme, pourquoi le Bitcoin ?
Eh bien, c'est le modèle qui plaît. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est totalement décentralisé. Vous parlez de monnaie locale. Une monnaie locale, c'est dans les mains de quelques personnes. Bitcoin n'est pas dans les mains de quelques personnes. Bitcoin est indépendant d'un État, d'un gouvernement. Et en fait, après, ça peut être divers, pour diverses raisons. D'ailleurs, on peut adopter Bitcoin. Mais c'est aussi une philosophie de se dire, finalement... S'il y a un conflit sur Terre, par exemple, voilà, en France, paf, on rentre en guerre, notre monnaie s'effondre, très certainement, parce que si vous regardez à chaque moment où il y a eu des guerres dans un pays, bah, les monnaies, elles vont pas très très bien dans ces moments-là, tout simplement parce qu'on abuse souvent de ce qu'on appelle, entre guillemets, la planche à billets, même si c'est plus compliqué que ça. Et bien là, du coup, c'est une monnaie qui est mondiale. Donc, il y a une certaine confiance qui peut arriver à un moment donné en se disant, bah, voilà, si mon pays est touché par un conflit, vu que c'est mondial, finalement, l'impact risque d'être moindre. Mais il y a tout un tas de raisons, l'incensurabilité, enfin, il faudrait plus d'une émission de 10 ou 15 minutes pour parler de tout ça. Ouais.
Donc, si vous voulez en savoir plus, l'association Anjou Bitcoin organise mercredi 11 septembre une conférence dans les locaux de l'UCO qui s'appelle « Du coquillage au Bitcoin ». C'est 5 euros, ça commence à 19h. C'est dans l'amphi Bazin, dans l'amphi...
Le nom d'amphi, là, vous me posez une colle, là, comme ça.
Dans un des amphis de l'UCO, vous allez voir, ce sera très bien indiqué. Sinon, évidemment, c'est sur tous vos réseaux sociaux. Ce sera sur tous vos réseaux sociaux. Du coquillage au Bitcoin. J'aimerais vous faire écouter un petit extrait d'un sketch que forcément vous avez vu passer, puisque ça questionne la valeur même de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent ? Quelle valeur je donne à un objet ? Cet objet qui va me servir à avoir quelque chose. C'est un sketch de Roman Frécinet autour de l'objet de la pièce de 2 euros. Un petit extrait d'une minute 40.
Pas longtemps, je marche, toujours pareil. Un magasin, je vous jure que c'est vrai, il vendait des pièces de monnaie. Le gars, il vend de l'argent. Et c'est un commerce. Et je vous jure, je rentre et je vous jure que c'est vrai. Il vendait une pièce de 2 euros, 100 euros. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais monsieur, il y a marqué 2 euros dessus. Il m'a dit, mais c'est pas parce qu'il y a marqué 2 euros que ça vaut 2 euros. Je lui ai dit, mais monsieur, il n'y a pas juste marqué 2 euros. L'objet, c'est 2 euros. L'objet ne sert à rien d'autre à part être échangé contre quelque chose qui vaut 2 euros. Et là, il m'a dit, oui, mais vous comprenez rien, c'est l'offre et la demande. Il dit, cette pièce, elle est rare. Il y a beaucoup de gens qui la veulent, donc elle vaut plus cher. Je lui ai dit, mais monsieur, je suis tout seul dans le magasin en ce moment. Ils sont où les autres qui la veulent ? Et ils persévèrent. Moi, j'ai beaucoup de temps à tuer dans ma vie, d'accord ? J'ai récupéré 50 pièces de 2 euros. Je suis revenu. Et je lui ai dit, vous là, qui parle mal depuis le début de la blague. T'as vu comment il parle mal depuis le début de la blague ? Il m'énerve. J'ai empilé les 50 pièces de 2 euros et je lui ai dit, vous là, vous êtes en train de me dire que ma pile de 2 euros, elle vaut votre pièce de 2 euros ? Et il m'a dit, je sais pas, peut-être vous avez des pièces, elles valent 4, 5 euros. Je lui ai dit, m'embrouille pas, toi, déjà.
Voilà un extrait du sketch de Roman Frécinet autour de la pièce de 2 euros. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce sketch, par rapport à notre rapport à la monnaie, au bitcoin et à la valeur que peut revêtir une monnaie ?
Ce qui est intéressant avec ce sketch, c'est tout l'humour autour, finalement, de la valeur faciale. On va confondre effectivement ce qui est imprimé sur une pièce ou un billet, 5, 10, 50, 100 euros, avec ce qu'il représente. Pour autant, le papier et l'encre qui sont sur ce billet de 100 euros, par exemple, ne valent pas ces 100 euros. Donc, il y a une confusion, effectivement, entre la valeur faciale et ce que ça représente. Donc, ça, c'est une première chose. Ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est finalement la séparation entre l'État et l'argent, entre l'autorité émettrice d'une monnaie sur un territoire et l'argent. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir avec Bitcoin, c'est pas seulement réservé à une boutique ou bien à un pays, mais bien au monde entier. Chaque humain ayant une connexion à Internet peut avoir accès à Bitcoin, échanger du Bitcoin, en acheter, en vendre. Donc on a 8 milliards de personnes sur Terre, a priori qui ont un accès, qui croient à Internet, qui peuvent être de plus en plus exposés à Bitcoin. Donc ça existe depuis 15 ans, on pense que ça sera toujours là dans 15 ans, comme Internet sera probablement toujours là et encore plus présent dans nos vies. Et donc on estime effectivement que sa valeur va être amenée à croître, puisque il y aura certainement de plus en plus de personnes qui vont s'y intéresser.
Emmanuel Arrou.
Oui, il y a une définition que j'aime bien sur la monnaie, qui va peut-être parler aux auditeurs. Une de mes préférées, c'est le fait que la monnaie, c'est un outil qui est censé conserver son pouvoir d'achat dans le temps et dans l'espace. Et en fait, si vous regardez nos monnaies, elles ne font pas ça. Si vous prenez vos euros, là, la personne plaisantait avec la valeur faciale, etc., des 2 euros, mais allez au Venezuela avec votre pièce de 2 euros, bon courage pour acheter quelque chose. En fait, vous ne pourrez pas. Donc,
alors que changer 2 euros en plus en bolivar, là, par contre, on devient Crésus.
alors Crésus, non, parce que du coup, le bolivar, mais oui, il y aura beaucoup, beaucoup de bolivars. Mais vous voyez, en fait, en fonction de là où vous êtes, donc ça, c'est pour l'espace, en fonction des pays, bah, du coup, ça va changer. Peut-être que votre monnaie, pardon, ne vaudra absolument rien. Parlez-en à ceux qui sont dans la zone du franc CFA, par exemple. Commercer aujourd'hui avec des zones franc CFA dans le monde, c'est très, très, très compliqué. Et l'autre, c'est dans le temps. En fait, peu de gens savent que l'objectif des banques centrales, aujourd'hui, alors des États aux banques centrales, hein, c'est un accord, c'est d'avoir 2% d'inflation. Autrement dit, aujourd'hui, on souhaite, c'est un véritable souhait, que nos monnaies perdent 2% de leur valeur chaque année. Moi, je suis pas certain que si on posait ce constat-là à notre population, en leur disant, ben voilà, chaque année, votre monnaie va perdre 2% de pouvoir d'achat, je suis pas certain qu'elle acquiescerait.
Le Bitcoin est très volatile, c'est-à-dire qu'un temps, il peut valoir, là, comme en ce moment, à peu près plus de 51 000 euros, et parfois, il peut perdre en un claquement de doigts 60-70% de sa valeur. Bon, j'exagère un peu, mais oui. c'est quand même très volatile, même si ne serait-ce que 30%, ça serait déjà dramatique. Hein, si jamais il y avait une 30% de perte de la valeur d'un euro, ça veut dire qu'un euro vaudrait plus que 70 centimes, ce serait absolument dramatique. Comment est-ce qu'on fait face à une monnaie volatile comme le Bitcoin pour assurer une stabilité quand même dans les échanges et dans la valeur?
Alors, on pourrait demander aux Vénézuéliens, déjà, parce que en fait, il faut savoir quand même que dans le monde, il y a des monnaies qui perdent de cette valeur, enfin de ces pourcentages-là au cours du temps. Si vous posez la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, Bitcoin serait une monnaie qu'on pourrait utiliser en France, je dirais que la réponse est quasiment non. C'est-à-dire que nous avons en France, en Europe, une monnaie qui est relativement forte et stable. Et donc, du coup, Bitcoin n'est pas là, entre guillemets, aujourd'hui. En tout cas, nous, en tant qu'Européens, on peut pas la voir comme une espèce de monnaie de remplacement, en fait. On la voit davantage comme une réserve de valeur, en fait, aujourd'hui, en Occident, du style, oh là là, on pense, en tout cas, nous, Bitcoiners, pour une grande majorité, que les responsables de la monnaie aujourd'hui font un petit peu n'importe quoi avec, et que du coup, sur du long terme, ça va plutôt gagner en valeur. En tout cas, c'est une idée que nous avons. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volatilité dessus. Évidemment, il faut regarder aussi dans le temps. Est-ce que la volatilité d'aujourd'hui sur Bitcoin, est-ce que c'est la même que celle qu'il y avait 5 ou 10 ans? La réponse est non, parce qu'il y a toujours de plus en plus de monde qui arrive sur Bitcoin. Donc en fait, c'est un petit peu inhérent aussi à quelque chose qui est une révolution technologique, une innovation. Bah, quand elle arrive, entre guillemets, tout le monde en veut, puis certains font des plus-values, alors du coup ils la vendent. Nous, on s'intéresse pas trop à ça, quoi.
J'ai encore plein de questions à vous poser, il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même qu'on parle du coût environnemental hein, du Bitcoin, qui est absolument vertigineux, entre les ordinateurs qui tournent à plein régime, ces supercalculateurs qui minent hein, pour créer le Bitcoin, le coût des matières premières pour fabriquer ces composants électroniques qui sont les plus performants aujourd'hui dans le monde à peu près. Bon voilà, c'est quand même un coût environnemental qui est très très important. En 2021, le Bitcoin émettait autant de gaz à effet de serre que 75% des ménages français sur un an. Aujourd'hui, ça doit avoir augmenté puisque en 3 ans, le Bitcoin a encore gagné de la valeur. Comment est-ce qu'on fait pour imaginer une nouvelle monnaie avec les enjeux écologiques qui sont les nôtres? À quoi ça sert le Bitcoin aujourd'hui si jamais on produit encore une nouvelle monnaie qui vient consommer encore plus d'énergie, qui vient encore plus émettre de gaz à effet de serre, alors que l'urgence, avant toutes les autres urgences aujourd'hui, c'est de préserver notre planète?
Alors, je vais répondre à ça parce que c'était une de mes principales problématiques. Je vais vous expliquer très brièvement pourquoi. Je suis à l'origine d'une association sur Angers qui était pour sensibiliser au développement durable. Et l'année dernière, pas plus tard, j'étais à l'ESEO sur Angers, du coup, pour donner des cours d'ingénierie responsable. Donc, je connais plutôt bien le sujet. Et en fait, je trouve que ce sujet, il est pris pas avec sérieux, en fait, sur Bitcoin. On réfléchit pas à ma monnaie, du coup, comment elle doit fonctionner. Alors effectivement, il y a une consommation énergétique qui est très importante, à ne pas confondre consommation énergétique avec pouvoir destructeur, gaz à effet de serre, etc. Parce qu'en fait, vous pouvez consommer beaucoup d'énergie, si c'est de l'énergie renouvelable, etc., bah du coup, c'est moins grave, entre guillemets, même s'il y a toujours une consommation. La question qu'on se pose pas par rapport à ça à Bitcoin, c'est par exemple, que consomme aujourd'hui notre système bancaire ? Alors, des études ont été faites.
Mais c'est pas ça la question. La question, parce que notre système bancaire, il existe. Aujourd'hui, s'en détacher, c'est difficile. Vous dites que le Bitcoin, c'est un endroit refuge où on peut faire créer des nouvelles choses. Ça, puis tout à l'heure, on compare ça un peu à l'or. L'or est une valeur refuge, etc., etc. Bon, pourquoi le Bitcoin aujourd'hui, c'est indispensable ? À quoi ça sert aujourd'hui le Bitcoin ? Pourquoi une nouvelle monnaie ?
C'est bien le problème, justement. C'est vous dites, là, le système bancaire est en place, il est comme ça, il existe. Et c'est... Mais en fait, quand on est bitcoiner, on reconnaît pas forcément, justement, le fait que de se dire, bah tiens, oui, le système, il est en place et on le laisse.
Mais vous dites en même temps que le Bitcoin ne peut pas remplacer l'euro aujourd'hui en Europe.
En Europe, aujourd'hui. En fait, dans l'idée, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, alors là, il y a deux courants chez les bitcoiners. Il y a ceux qui le voient comme une réserve de valeur, ceux qui le voient comme une monnaie d'échange, voire les deux. Mais en tout cas, on peut pas se poser la question juste de se dire, tiens, je vais prendre une voiture à la place d'un vélo, sans se poser, enfin, un vélo à la place d'une voiture, sans se poser la question de la consommation de ma voiture. Si on imagine que, du coup, on veut utiliser Bitcoin demain, on peut pas se dire, bah non, mais le système bancaire, il est comme il est. Si vous étudiez la monnaie aujourd'hui, donc la monnaie dette que nous avons, ce modèle de monnaie dette, l'euro, le dollar, le yuan, le yen, ne peut fonctionner que si ça grossit. Donc là, je vous amène à une réflexion. Alors, il faudra rentrer dans les fonctionnements de la monnaie dette, mais en gros, si on faisait de moins en moins de crédit, la monnaie ne pourrait survivre. Et donc ça, c'est un gros problème. Ça veut dire qu'il faut toujours de plus en plus de crédit pour que la monnaie survive. Donc ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, moi, par exemple, je suis décroissantiste convaincu. Je pense qu'il faut aller vers de la décroissance, parce qu'on a un vrai problème. Mais comment faites-vous pour aller vers de la décroissance ? Donc, alors, ça, je précise que c'est pas l'avis de tous les bitcoiners, mais comment allez-vous vers de la décroissance si vous avez une monnaie qui ne peut fonctionner que si vous êtes toujours en pleine croissance ? Ben moi, j'invite les auditeurs à se poser la question, comment on fait ? Et en fait, quand on pose ce paradoxe, eh bien, on se dit, ah, mince, on a un souci. Donc, dans mon combat, entre guillemets, en tout cas sur ce volet développement durable, etc., à défaut de demander aux gens d'adopter Bitcoin, moi je demande aux gens de réfléchir sur le modèle que nous avons. Pouvons-nous continuer aujourd'hui sur Terre avec un modèle de monnaie qui ne peut subsister que si nous avons de la croissance ?
Le Bitcoin alors serait la monnaie du futur, la monnaie de l'avenir, quand on se rendra compte que notre système monétaire aujourd'hui est voué à foncer dans le mur ?
Modèle du futur, très sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas si Bitcoin réussira. Ce dont je suis persuadé, par contre, c'est que Bitcoin a déjà réussi quelque chose. C'est à planter une espèce de petite graine dans la tête de beaucoup, en tout cas tous ceux qui se sont intéressés à Bitcoin, de comprendre leur monnaie, le système monétaire et comment il fonctionne. Et déjà, si, j'ai envie de dire, la vraie victoire serait que les gens qui comprennent Bitcoin, qui adoptent Bitcoin et qui ont compris, du coup, la monnaie, bien fassent pression un petit peu sur nos États, sur nos gouvernants, sur les banques centrales, pour dire mais arrêtez avec ce système qui n'a ni queue ni tête aujourd'hui, qui d'ailleurs n'est pas très très vieux, hein, sur le fait de se dire il n'y a plus du tout de corde de rappel à du physique, à quelque chose de fini. La vraie victoire pour moi, ce serait celle-ci. Après, l'hyper-bitcoinisation de Bitcoin dans la vie de tous les jours, etc., il faudra que Bitcoin surmonte quelques défis technologiques pour pouvoir y arriver.
Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux, Jean-Charles Galli et Emmanuel Haro, d'être venus à nos micros sur les ondes de Radio Campus Angers. Je le rappelle, la conférence est mercredi prochain à l'UCO à 19h. Ça s'appelle « Du coquillage au Bitcoin » et ça questionnera évidemment la monnaie dans toute sa diversité. Évidemment, on parle du coquillage puisque le coquillage était une des premières monnaies avec lesquelles on a pu arrêter le système de troc. Hein. Voilà,
Oh là là, vous apprendrez d'autres choses sur le troc lors de cette conférence du coup.
Eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça se passe du coup à 19h mercredi prochain. Anjou Bitcoin, c'est disponible sur votre site internet.
Il y a alors le site internet, l'adresse. Alors on est une association toute nouvelle.
Oui, c'est très récent.
Anjoubitcoin.fr. Et sinon, c'est chaque premier mercredi du mois à 19h.
Voilà, il y a des meet-up.
Il y a des meet-up du coup dans les bureaux de WeForge, donc juste à côté de la FNAC à Angers.
Eh bien, merci beaucoup encore à tous les trois d'être venus dans le pédalo pour cette émission autour du Bitcoin. Le pédalo qui termine sa traversée sur les ondes de campus. Demain, on parle de culture américaine, hip-hop et block parties avec l'association L'Air de Rien qui sera au Héron Carré avec des artistes et des rappeurs allemands courant septembre. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous sur le 103 FM. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.